Donc à cette seconde journée des entretiens du jeu de paume sur la démocratie d'opinion du siècle des Lumières à la démocratie des courts-circuits. Hier, nous avons parlé abondamment des sondages, du référendum, des consultations populaires directes. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des médias, la question de l'intervention des associations et la question de l'Internet. Et nous allons tout de suite commencer par une série d'échanges sur, le rôle des associations, des lobbies, n'ayons pas peur des mots dans le fonctionnement social et le fonctionnement de la démocratie tout court. J'ai tenu à inviter des participants extrêmement différents, vous l'aurez vu dans le programme. Puisqu'il y a à ma gauche Sylvie Brunel, qui est géographe, économiste, écrivain, professeur à la Sorbonne Paris 4, qui a beaucoup milité dans les associations et qui nous parlera bien de l'intervention directe, en quelque sorte, des ONG. Ensuite, nous l'attendons, il y a Daniel de Vavrin, ex-président de l'Union des industries métallurgiques et minières, partie importante du MEDEF, et qui nous parlera de l'action des lobbies. Et je sais qu'il est en route, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Il y aura Augustin Legrand, comédien, enfin nous l'attendons parce qu'il est difficile à joindre, mais nous l'avons eu, il nous a confirmé sa venue hier. C'est Augustin Legrand, qui est comédien et cofondateur de l'association Les Enfants de Don Quichotte. Nina Mitz, qui est à ma droite, qui s'occupe de journalisme international et aussi de communication stratégique. Et puis Michel Muller, syndicaliste, secrétaire général de la FILPAC CGT, donc là encore aussi une forme d'intervention dans le débat démocratique, une intervention directe ou plus ou moins directe dans le débat démocratique. Je vais donc tout de suite donner la parole à... Vous avez le programme largement de présentation, donc comme nos intervenants sont nombreux et qu'il y a beaucoup de questions qui sont à traiter, je vais tout de suite donner la parole à Sylvie Brunel pour qu'elle nous présente de son point de vue, du point de vue de ses engagements et de sa réflexion, ce qu'elle entend par action directe et rôle des associations dans le processus démocratique. Puis ensuite, nous continuerons le tour de table en espérant que nos deux derniers participants, entre-temps, seront arrivés. Donc je vous donne tout de suite la parole à Sylvie.
Merci Michaud, bonjour à tous. Alors mon intervention portera sur la question de savoir comment les ONG se sont imposées sur la scène internationale et comment elles ont réussi à faire régner le concept de développement durable à la fois dans les politiques publiques et dans la coopération internationale, mais un développement durable tronqué puisque ce concept à l'origine très équilibré entre l'économie, le social et l'environnement est devenu de plus en plus une défense de l'environnement contre les hommes et particulièrement contre les populations pauvres, puisqu'on a le sentiment souvent que le devenir de la planète est plus important que celui des hommes, mais que plus encore, toutes les catastrophes ne seraient aujourd'hui que la vengeance d'une nature agressée contre une humanité à la fois proliférante et irresponsable, qui est appelée bien sûr à faire son mea culpa. Alors c'est quelque chose de tout à fait marquant parce que pendant 50 ans, on n'a parlé que du développement et toutes les nations du monde étaient en lutte pour le développement économique. Et puis, à partir du début des années 90, eh bien, on ne parle plus progressivement du développement, on parle du développement durable. Comment on en arrive là ? Eh bien, on en arrive là à une période de l'histoire tout à fait spécifique qui est le tournant des années 90, au moment où la guerre froide s'achève avec la disparition de l'Union soviétique et où s'impose finalement la vision de la seule grande puissance résiduelle dans les années 90, qui sont les États-Unis. Et cette vision, on peut la résumer en trois points. Le premier point, c'est l'apologie de la nature, ce que les Américains appellent la wilderness, la nature sauvage. Et c'est en tournant des années 90 que les crédits alloués à l'environnement explosent littéralement dans la coopération internationale. Alors, pourquoi cette apologie de la nature ? Eh bien, parce que il y a trois grandes peurs qui apparaissent sur la scène internationale. La première peur, c'est la peur de manquer de ressources. Et c'est en réalité la peur de la montée en puissance de la nouvelle, de nouveaux pays émergents qu'est la Chine. La deuxième peur, c'est de voir ce qu'on appelle la capacité de charge du vaisseau Terre dépassée. C'est-à-dire, en réalité, la peur du développement économique des pays émergents. Et puis, la troisième peur, c'est l'accent mis sur le changement climatique, ce que les Américains appellent « cooking the climate », de mettre en ébullition le climat, qui est là encore une peur du développement industriel du Sud. Et alors, cette peur, elle est masquée par un discours qui se veut un discours très moral. La communauté internationale dit que, finalement, maintenant qu'on n'alloue plus d'argent à l'affrontement Est-Ouest, on va pouvoir enfin lutter contre la pauvreté. On va pouvoir utiliser les dividendes de la paix pour lutter contre la pauvreté. Mais ce qui va se passer en réalité dans les faits, c'est que la lutte contre la pauvreté, c'est une lutte contre les pauvres. Une lutte contre les pauvres qui se traduit par des politiques d'éviction des pauvres, de mise à l'écart des pauvres par deux moyens. D'abord, la multiplication des surfaces protégées et des aires naturelles, passées de 2 millions de kilomètres carrés en 1950 à 20 millions de kilomètres carrés aujourd'hui, avec souvent l'éviction des communautés paysannes et pastorales qui occupent ces terres dans tous les pays du monde, et puis des programmes de réduction de la natalité, souvent des programmes assez violents d'ailleurs. Récemment, on a parlé sur Arte des campagnes de stérilisation des populations indiennes au Pérou. Et cette évolution de la coopération va se faire par un biais qui, en apparence, est un biais extrêmement charitable, qui est l'humanitarisation de l'aide publique au développement. L'humanitarisation, c'est-à-dire le fait que l'aide publique au développement est de plus en plus allouée à des organismes qui se présentent comme des organisations humanitaires, charitables, qui sont généralement très anciennes, mais qui vont de plus en plus agir à partir de cette fin de la guerre froide comme autant de bras désarmés des grandes puissances avec des budgets publics considérables qui va leur permettre d'atteindre des tailles très, très lourdes, très importantes, plus importantes que certains États du Sud, mais aussi des budgets privés, puisque les grandes émotions médiatiques internationales vont souvent être déclenchées par des coups de projecteur faits par des médias travaillant de concert avec les ONG et ne pouvant accéder aux victimes que grâce à l'aide des armées de ces grandes puissances. L'Afghanistan, à partir de la fin décembre 2001, le Darfour, à partir de 2003, où on va parler même de génocide, le tsunami du 26 décembre 2004, où les Américains prennent pied dans ce grand pays musulman qu'est l'Indonésie grâce à cette catastrophe naturelle, dont Condé Lazar Haïs dit que c'est une merveilleuse opportunité. Et on va commencer à parler des GONGO, des gouvernementales ONG. Alors finalement, Internet, plus la mondialisation libérale, plus la crise de l'État permise par la crise de la dette, cela favorise l'émergence d'institutions extrêmement puissantes qui se présentent comme émanant de la vox populi et qui sont souvent en réalité financées par les États. Et au sein de ces ONG, certaines sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus influentes que les autres. Ce sont les ONG de défense de l'environnement. Pourquoi elles ont une influence beaucoup plus grande ? D'abord parce qu'elles sont très anciennes. La plupart d'entre elles sont nées au XIXe siècle, au moment où l'on conquérait les pays neufs et où on avait cette préoccupation de défendre les espaces naturels, la wilderness, aux besoins, en évinçant les populations qui occupaient ces territoires. Et on oublie trop souvent que le terme de développement durable, c'est un terme qui est né sous les auspices de grandes ONG environnementales, l'Union mondiale pour la nature, le WWF et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui, dans les années 80, publient un texte où l'on parle de la stratégie mondiale de la conservation, conservation des ressources, et c'est la première fois que l'on parle de développement durable. Et pourquoi ces ONG vont avoir une telle importance, une telle influence dans la politique internationale ? Parce qu'elles ne sont pas révolutionnaires, elles ne sont pas réformistes comme les ONG altermondialistes. Elles ont une véritable convergence d'intérêts dans les pays du Nord avec les milieux politiques et avec les milieux d'affaires. On pourrait même parler d'une véritable consanguinité entre les ONG de défense de l'environnement et les grands milieux politiques et d'affaires, comme le montre d'ailleurs leur succès, l'incorporation de la Charte de l'environnement dans la Constitution française en 2005, le Grenelle de l'environnement en 2007, qui est vraiment tenu par 8 ONG dont la représentativité en termes d'adhérents n'est pas foudroyante en France, mais qui s'impose dans le discours en faisant une espèce de diplomatie de la terreur auprès des hommes politiques. Vous signez ou c'est le chaos et c'est la planète qui en paiera le prix. Et cette prise de pouvoir des ONG environnementales, eh bien, elle passe par un véritable oligopole de la conservation qui existe au niveau mondial, qui aboutit à mettre sous cloche des espaces de plus en plus importants, avec d'ailleurs souvent l'assentiment et même la coopération des élites du Sud qui voient un moyen de mainmise sur le foncier. Et on le voit bien, par exemple, avec l'inscription d'un certain nombre de sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est aussi un moyen de geler le foncier. Et les méthodes de ces grandes ONG environnementales, eh bien, elles sont toujours les mêmes, comme vous l'avez probablement vu ces dernières années dans un certain nombre de films qui ont eu beaucoup de succès. D'abord, c'est le catastrophisme et l'exagération. C'est-à-dire que on ne cesse de nous asséner des verdicts absolument terrifiants sur notre devenir, verdicts dont d'ailleurs la communauté géographique à laquelle j'appartiens ne cesse de nuancer, de remettre en question, mais elle est beaucoup moins entendue que ces grandes ONG environnementales. Deuxième axe après la terreur, après l'industrie de la peur, la politique de la terreur, c'est-à-dire dire aux entreprises et aux États, soit vous vous soumettez à nos conditions, soit eh bien, nous déclenchons le feu de la mobilisation des opinions publiques face au grand péril, et on revient, vous savez, à cette peur que le ciel nous tombe sur la tête. Troisièmement, la définition des indicateurs et l'attribution de labels de qualité, hein, et le rôle essentiel des indicateurs et des labels fait que ces ONG qui se sont positionnées pour la première fois sur la scène du développement durable, ce sont souvent elles qui définissent les conditions qui font de vous un être vertueux ou non. Et puis, j'ai envie de dire, la politique, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que souvent, il y a une grande nuance entre le discours qu'elles tiennent et leur pratique au quotidien. Alors, cette prise de pouvoir des ONG environnementales, elle n'est évidemment pas forcément négative, puisqu'elle aboutit à des prises de conscience, mais elle est pernicieuse en ce sens qu'elle se fait au détriment d'un certain nombre de populations, chez nous comme au Sud, qui se retrouvent de fait exclues, voire montrées du doigt dans des politiques d'aménagement du territoire. Alors, comme il faut toujours terminer par une note positive, je voudrais quand même dire que cette dénonciation...
Ici, c'est pas obligé.
D'accord. Et je voudrais quand même dire que ces dénonciations, elles en sont conscientes elles-mêmes, parce qu'on a attiré leur attention sur le fait qu'elles menaient un mauvais combat en déniant le fait que si la planète existait, c'était d'abord pour le bien-être de l'humanité. Et l'on voit un changement depuis le sommet de Copenhague, c'est le fait que les grandes ONG altermondialistes, les grandes ONG sociales, qui pendant très longtemps avaient été exclues du discours, sont en train de nouveau de mener de concert des programmes avec ces grandes ONG environnementales. Et ça se traduit par exemple dans ces pays du Sud par des programmes non plus d'éviction des populations des zones naturelles, mais de gestion concertée des ressources naturelles, parce qu'on ne peut pas bien gérer la Terre sans penser, bien évidemment, à ceux qui l'habitent et à ceux qui l'aménagent. Je vous remercie.
Bien, on poursuit notre tour de table et je vais passer la parole à Daniel de Vavrin pour nous parler, lui, de son point de vue, de son expérience. Voilà. Je ne sais pas quel est l'enfant qui parle dans le... qu'on entend de temps en temps. Et... ah, c'est derrière, donc ben, voilà, c'est lié. À... allez-y. Daniel. Donc, président de l'Union des industries, président d'honneur de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, ingénieur, ancien élève de l'école politique. Micro, voilà. Et il a été à la tête de nombreuses sociétés comme Luchère, Epeda, Bertrand Faure, Forestia, etc. Voilà, à vous, Daniel.
Bien, je vais essayer de vous parler de la façon dont je vois le lobbying. Alors, en France, contrairement à ce qu'il en est dans la plupart des autres pays, la notion de lobbying a une connotation tout à fait négative. On imagine tout de suite des actions occultes, visant à privilégier des intérêts particuliers, pas forcément pour l'intérêt général. Et puis même, on peut imaginer que tout ceci débouche sur de la corruption. Alors, bien sûr, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais à ma connaissance, enfin, à mon avis, l'essentiel des actions du lobbying, lobbying au sens propre, échappe à ce reproche. Alors, en dehors de l'Hexagone, la fonction de lobbying est le plus souvent parfaitement reconnue et parfaitement respectée. Alors, quelle est sa vocation ? Sa vocation, on peut dire, en prenant de la hauteur, enfin en essayant de faire une définition très large, on peut dire qu'il s'agit de faire prendre conscience à des décideurs, n'importe quel décideur, pouvoir public ou autre, des caractéristiques de dossiers qui sont généralement suffisamment complexes pour que ceux qui ont à en décider n'en maîtrisent pas toutes les composantes. Donc il s'agit de les mettre au courant, bien entendu. Le lobbyiste défend les intérêts de ceux qui lui ont demandé de faire cette action, mais il cherche à faire promouvoir les solutions que ceux-ci pensent les meilleures, mais il lui appartient aussi de respecter l'intérêt général. Et puis s'il ne le faisait pas, on le lui ferait savoir. Alors, je vous disais qu'en France, cette notion avait mauvaise réputation. Alors ainsi, à Bruxelles, où il y a pléthore de lobbyistes de toute nationalité, pour ne pas dire de tout poil, alors que les Français, alors que les autres sont extrêmement nombreux et extrêmement actifs, les Français sont peu nombreux et relativement discrets. Ce qui, d'ailleurs, est un handicap pour nos différentes institutions. Alors, ceci ne veut pas dire que le lobbying soit inexistant dans notre pays. Je vais vous donner un exemple, le groupe des fédérations industrielles, dont j'ai été également président d'honneur en son temps, qui regroupe pratiquement les 4/5 de l'industrie et les 4/5 des salariés de l'industrie, c'est-à-dire peut-être 4 millions de salariés. Le groupe des fédérations industrielles, donc, a eu une action pendant plus de 10 ans, tout à fait tenace auprès des pouvoirs publics et à tous les niveaux, pour expliquer pourquoi il était nécessaire, ou il lui apparaissait nécessaire, de supprimer la taxe professionnelle. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que la taxe professionnelle. C'est un impôt particulier pour les régions, mais qui a un inconvénient, c'est qu'il s'appuie totalement sur les entreprises et sur leurs investissements. Ceci revient à faire payer ou à coûter à peu près 40% de plus à un investissement à une entreprise en France, à ce que ça lui coûterait à l'extérieur. Donc on voit de toute évidence que ça pénalise la compétitivité, et même si c'est pas toujours évident à comprendre, si ça pénalise la compétitivité, tôt ou tard, ça pénalise l'emploi. Eh bien, au bout de 10 ans, nous avons, mais je me souviens d'avoir vu le président Chirac en son temps, au bout de 10 ans, nous avons convaincu les pouvoirs publics que cet impôt était néfaste et qu'il fallait le supprimer. Vous avez entendu qu'on est en train de le supprimer, mais ça ne va pas sans de graves inconvénients, parce qu'il faut le remplacer par un autre. Sinon, les régions vont se demander comment faire. En réalité, aujourd'hui, je voudrais surtout m'attacher à montrer comment l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la mécanique, grâce à des actions de lobbying au sens classique, défend l'intérêt des entreprises et de leurs salariés, et partant défend l'intérêt général. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce sigle de l'UIMM, je voudrais vous dire que depuis plus de 100 ans, l'UIMM représente l'ensemble des entreprises de la métallurgie. Là, ça fait à peu près 2 millions de salariés, donc presque la moitié de l'industrie. Et ses activités vont de la cuillère à café jusqu'à la fusée Ariane, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de choses. Donc l'UIMM représente ses adhérents dans ses relations avec les partenaires sociaux ainsi qu'avec l'État, puisque, comme vous le savez peut-être, en France, l'État est un chaperon difficilement contournable du paritarisme, c'est-à-dire que quand le patronat discute avec les syndicats, l'État n'est jamais très loin. Et il a du mal à se défaire de ses habitudes. Alors, je voudrais illustrer cette action de lobbying au cours des décennies de l'UIMM par 2 exemples. D'abord, la réforme de l'apprentissage. L'apprentissage, vous savez qu'il y a un débat récurrent en France pour savoir est-ce que la formation que nous donnons aux jeunes est parfaitement propre à les préparer à la vie professionnelle, et on se compare souvent avec l'Allemagne où l'apprentissage est beaucoup plus centré dans les mœurs. Alors, l'apprentissage a été créé en France après la guerre, proposé aux jeunes des contrats de formation qui étaient effectués en partie en entreprise. Donc en même temps qu'on leur donne une formation pédagogique, on les insère déjà dans l'entreprise, et ils peuvent apprendre des choses qu'ils ne peuvent trouver que dans l'entreprise. Alors, en Allemagne, ce principe était beaucoup plus étendu, alors qu'en France, donc vers les années 70, c'était réservé uniquement aux jeunes ouvriers qui préparaient un CAP. Alors, au début des années 80, l'UMM a souhaité élargir l'utilisation de l'apprentissage, de ce concept, à des formations qui puissent aller plus loin que le CAP. Ça nous apparaissait dans l'intérêt des entreprises, mais aussi des familles, puisque les jeunes qui pouvaient faire la fin de leur parcours éducatif avec de l'apprentissage touchaient un peu d'argent, étaient rémunérés, trois quarts du SMIC, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais enfin, pour changer cette chose, à savoir aller au-delà du CAP, il fallait une loi. Alors nous avons, enfin l'UMM, moi j'étais pas à l'époque, mais enfin l'UMM a préparé un dossier qu'elle a remis en juillet 87 au ministre du Travail de l'époque, qui s'appelait Philippe Séguin. Ce dossier l'a convaincu de l'utilité économique et sociale du projet, et il a adhéré à l'idée. Mais dans des actions comme celle-là, ou de lobbying classique, il ne suffit pas de promulguer une loi pour que les réformes se fassent. Il faut aussi convaincre les parties prenantes. Il faut que tout le monde soit d'accord, et puis ensuite une loi vous permet de le faire, mais il faut qu'il y ait une adhésion générale. Alors, en l'occurrence, sur cette proposition d'élargir l'apprentissage au-delà du CAP, c'est-à-dire à des jeunes moins jeunes, d'abord, l'éducation nationale y était opposée. Elle était opposée à l'extension de l'apprentissage, sans doute du fait qu'il y a dans ce pays une certaine réticence, une réticence évidente vis-à-vis des entreprises, que l'éducation nationale ne voit pas pourquoi les entreprises se mêleraient de ce qu'est sa mission. Et puis en plus, l'opinion publique craignait une détérioration de l'image de l'enseignement en entreprise, au-delà du CAP, s'ils étaient couplés à de l'apprentissage. Donc, il y avait donc des vrais poids lourds à retourner si on voulait que, malgré une loi, l'apprentissage puisse se développer en France. Encore une fois, je répète qu'en Allemagne, il n'y a pas de problème, c'est largement développé, et on voit des grands patrons allemands qui ont commencé leur carrière comme ça. Donc l'UMM a entrepris une vaste action de lobbying. Je vous ai parlé tout à l'heure du lobbying du GFI, ça a duré 10 ans. Et bien là aussi, ça va durer au moins 10 ans. Progressivement, l'UMM a pu convaincre de cette idée non seulement des lycées professionnels qui préparaient au bac pro, mais progressivement, grâce à une affectation ciblée de la taxe professionnelle, donc on avait quand même des moyens à apporter à ceux qui voulaient bien faire l'expérience, nous avons petit à petit développé ce qu'on a appelé des CFA, centre de formation pour apprentis, pour étendre l'apprentissage jusqu'au BTS. Alors les lycées professionnels l'ont étendu jusqu'au bac pro, et les CFA qui relevaient de l'UMM l'ont étendu progressivement jusqu'au BTS, jusqu'à bac plus 2. Le BTS, c'est une catégorie de personnel qui est absolument indispensable pour les entreprises industrielles. Alors, pour les universités et les grandes écoles, elles étaient encore plus réticentes, toujours pour la même raison, c'est-à-dire qu'elles craignaient pour leur image. Alors, nous avons cherché la possibilité de mener une expérience, et de la mener de telle façon, enfin, avec les plus grandes chances de succès, pour que, ayant eu un succès, ça puisse se développer. Alors, la chance a voulu, en 1980, qu'une grande école, l'ESSEC, accepte de mener cette expérience. l'ESSEC avait besoin d'argent. On a ciblé vers elle de la taxe pro, dont je demandais la suppression il y a 5 minutes, mais à l'époque, il y en avait. Et ceci nous a permis, l'expérience a réussi, et nous a permis d'introduire des filières apprentissage jusqu'au niveau Bac plus 5. C'est un véritable changement dans la formation française qui a été effectué en une petite dizaine d'années. Et je crois vraiment que l'UMM a tenu toutes les ficelles et a mis sa volonté pour qu'on le fasse. Avec l'appui de Jean-Pierre Soisson, ministre du Travail après, nous avons favorisé la création de l'IT2I, Institut Technique des Ingénieurs de l'Industrie, qui relève de nos propres chambres de commerce, où l'on forme aussi des ingénieurs. Aujourd'hui, un très grand nombre des grandes écoles d'ingénieurs ont une filière d'apprentissage et on sait que sur à peu près 2000 ingénieurs qui sont formés en France chaque année, ce qui est d'ailleurs loin d'être suffisant, il en faudrait presque le double, 10% le sont par une filière d'apprentissage. Donc il a fallu 20 ans, en l'occurrence de lobbying tenace, pour arriver à nos buts. C'était l'intérêt des entreprises, c'était, je crois, l'intérêt général. Et la méthode est toujours la même. Quand vous voulez faire passer une idée qui paraît un peu révolutionnaire ou nouvelle, il faut d'abord convaincre les autres protagonistes, ou au moins s'efforcer de désarmer leur hostilité, de façon à ce qu'il n'y ait pas des grands remous partout contre. Il faut rendre les choses légales, donc là il y a une action sur les pouvoirs publics. Et troisièmement, il faut suivre attentivement la mise en œuvre parce qu'il y a beaucoup de beaux projets qui se perdent dans l'inaction derrière. Alors le second exemple que je voulais...
viendra ensuite au fil des questions.
Hein. Comme tu veux.
Voilà, premier tour.
Je ne sais pas combien de temps j'avais.
C'est un vrai, hein, mais c'est 10 minutes, on s'y tient.
J'ai dépassé 10 minutes.
Oui, voilà. Alors, je vais passer la parole maintenant à Michel Muller. Il est né en 1948, il est membre du secrétariat fédéral en charge des questions internationales et du développement, ancien secrétaire général de la FILPAC-CGT, ouvrier typographe, syndicaliste, membre du Conseil économique et social. Eh bien, c'est à lui de nous parler du même problème, de son point de vue.
Merci et bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais plutôt prendre une autre approche du problème, parce qu'évidemment, en tant que du point de vue syndicaliste, la question du lobbying est évidemment centrale, sauf que la situation en France veut que c'est moins la force de l'argument que la force du poids que l'on représente qui emporte en général la décision. Donc le syndicalisme est confronté à cela. C'est moins, et on le voit bien, la confiance que l'on peut recueillir ou pas, mais surtout en termes de représentation et de rapport de force, appelons-le comme ça, dans notre société, c'est pas un gros mot. Notre travail de syndicat, je dirais, il tourne autour de trois grands domaines. D'abord, nous communiquons. Notre premier travail, c'est en fin de compte, 80% de mon temps, je le passe à communiquer. Un tiers en interne, en externe, deux tiers en interne, pour essayer de convaincre, de recueillir des adhésions. Deuxièmement, nous fonctionnons en réseau. C'est-à-dire que d'origine, le syndicat n'existe que parce qu'il a un réseau qu'il peut animer et qu'il peut faire activer. Et troisièmement, comme il n'y a pas en France de service qui est lié au fait d'être syndiqué, eh bien, nous avons besoin d'adhérents, d'adhésion. Et d'adhésion qui, qu'on le veuille ou non, a beaucoup été construite plus sur les valeurs et principes, plus en France qu'à l'étranger, me semble-t-il, et peut-être moins ou pas assez sur la capacité propositionnelle en fonction de tel ou tel dossier. Et ces objectifs, nous les avons plus ou moins atteints, oui, plus ou moins, et avec aussi le constat, même si nous sommes dotés de moyens pour le faire, c'est que nous sommes arrivés à une certaine crise. Crise parce que le domaine social ne nous est plus réservé, qu'il y a aujourd'hui d'autres intervenants, des organisations non gouvernementales entre autres, que des thèmes nouveaux ont surgi, je pense entre autres à la question du développement durable, mais pas seulement, dans lequel le syndicalisme n'apparaissait pas absolument en capacité, je pense aussi au logement, peut-être que Augustin Legrand va en parler, ou n'était pas absolument qualifié pour être un acteur essentiel, le cantonnant en quelque sorte à la question conflictuelle du travail. Or, il me semble que la possibilité, enfin, ou du moins la raison d'être du syndicat ne peut pas se cantonner qu'à cela. Il faut que nous soyons de véritables acteurs de la démocratie dans ce pays, c'est-à-dire que nous soyons aussi reconnus en tant que tels, mais que nous ayons aussi recueilli l'adhésion de ceux qui nous donnent cette légitimité. Or, et ça c'était la deuxième crise à laquelle nous étions et nous sommes toujours confrontés, c'est qu'il y a ce réseau est un réseau qui a tendance à se replier de plus en plus sur lui-même en fonction du développement d'une crise sociale forte. Eh bien, alors que nous sommes dans une crise qui a plutôt la dimension mondiale, nous avons plutôt un réseau qui verrait dans son univers proche la solution à ces problèmes. Et cela peut aussi apporter des conséquences dangereuses. Je pense entre autres à ce que nous connaissons même en Grande-Bretagne, British Jobs for British Workers, mais on n'y échappe pas en France, et qui donc nous préoccupe. Et le troisième crise, c'est une crise de la démocratie. C'est-à-dire comment voulez-vous, en ayant de moins en moins d'adhérents, pouvoir être représentatif du monde du travail tel qu'il est, et donc de pouvoir peser dans le débat public. Quand les nouvelles technologies de la communication sont apparues, nous nous sommes emparés assez rapidement de ces technologies en pensant que nous sommes des pourvoyeurs d'informations. Chic, circuit d'information qui est en train de se généraliser, de se développer. Deux, le réseau, ça nous connaît. En plus, là, on fonctionne en réseau. Et trois, c'est un élément, ce sont des moyens extraordinaires pour être directement en lien avec le monde du travail. On n'a donc plus besoin de passer par ces médias qui nous aiment tellement peu et qui ont tellement tendance à déformer nos propos. Je dois avouer que dans un premier temps, cette démarche a plutôt été enthousiasmante et a recueilli une certaine adhésion. Et c'est vrai que nous avons fait des sites, nous avons fait énormément de choses, y compris ouvrir des blogs, enfin bref, des blogs, des forums de discussion. Et très rapidement sont apparues quelques contradictions et quelques problématiques que, je tiens tout de suite à le dire, je ne considère pas comme rédhibitoires, mais au contraire des défis, parce qu'au bout, il y aura peut-être une perspective, y compris pour nous et pour d'autres, de se redéployer à travers ces nouveaux réseaux qui se tissent. Premier défi, notre vision de l'information était quand même une vision du prêt-à-penser. J'ose le dire comme ça, parce que je dois faire vite. Dans d'autres lieux, je nuancerai peut-être mon propos, mais c'était quand même ça. Il faut éduquer ces travailleurs qui ne comprennent pas tout. Il faut leur donner l'information que nous avons, nous, rédiger, élaborer, et puis voilà. Et très rapidement, on a vu que dans ces forums de discussion, c'était peut-être pas tellement ça qui se passait. C'est-à-dire qu'il a même fallu qu'on désigne un de nos membres du secrétariat pour que tous les jours, il regarde avec effarement ce forum dans lequel se disaient des choses absolument horribles. Et mon Dieu, ça ne peut pas être un syndicaliste qui a écrit des choses pareilles. Donc, résultat, on a fermé le blog. On a fermé le forum. Alors, évidemment, comme on n'est quand même pas stupide, on s'est dit, ça nous lance quand même un défi, parce que ce qui a été dit, c'est vrai que c'est pas politiquement correct que sur un site estampillé CGT, on puisse lire ces horreurs. Mais en même temps, ces horreurs, elles existent. Il faut bien qu'on les intègre, qu'on les récupère. Ça, on ne l'a pas encore résolu. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir fermé ce forum fait que ceux qui écrivaient ces choses-là se sont déplacés ailleurs, entre autres sur des réseaux sociaux, qui nous échappent totalement. Alors qu'est-ce que nous avons à faire ? Nous n'avons qu'à nous inscrire aussi sur les réseaux sociaux, et ainsi nous contribuerons à... Mais évidemment, ça ne peut pas être une démarche valorisante, ni même intéressante pour nous. Donc, premier problème à résoudre. Puis second qui apparaît tout de suite, c'est que la juxtaposition de réseaux, ça fait peut-être circuler de l'information, mais ça ne fait pas un débat. Or, nous avons bien besoin, nous, pour avancer, je prends l'exemple de l'apprentissage ou de la retraite actuellement, c'est pas en alignant des positions les uns et les autres qu'on arrivera à sortir, et il faudra bien qu'il y ait débat, qu'il y ait écoute. Or, nos forums de discussion n'étaient pas des débats. C'était en quelque sorte à celui qui surenchérirait sur l'autre, c'est-à-dire que nous étions tous dans la même lignée. Il n'y avait pas confrontation d'idées. Et là, nous avons constaté, mais ça sera peut-être le débat de la table ronde suivante, c'est que les médias ne répondaient pas à cela. C'est-à-dire que nous n'avions pas des médias qui étaient en mesure de reprendre ce débat, de le faire vivre par ailleurs, et que nous en restions à la juxtaposition de sites, d'informations, mais qui n'avaient pas vraiment qui nous enrichissaient pas, et qui plutôt nourrissaient chez nous une attitude de repli sur ces bases, et c'était pas l'objectif vraiment souhaité. Troisième problème qui nous apparaissait, c'est que notre fonctionnement en réseau, nous étions quand même, nous avions beau croire être un réseau, nous avions quand même une vision de la circulation de l'information très verticale. À ce sens, je ne crois pas qu'on dépareille d'autres institutions, d'autres groupes. Oui, notre vision de l'information était évidemment verticale. Or, le réseau, dès que nous avions mis en place ces réseaux, les syndicats, nos syndicats se connectaient entre eux, y compris sur le plan international, ce qui donnait tout son sens au village global et qui était pour nous plutôt positif. Mais dès lors, les structures élues, comment rentraient-elles sur ce réseau au même titre, et donc nous n'avons pas résolu ce problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas, à mon sens, on ne peut pas le résoudre. Il faut évidemment passer au stade suivant, qui est celui d'un fonctionnement nouveau, y compris de notre propre réseau, et qui fait que une structure syndicale, fédérale ou confédération n'aura d'écoute auprès de ses mandants que par la qualité de son intervention, plutôt que par l'autorité qu'elle suppose représenter. Et là, nous retrouvons, en fin du compte, la démocratie originelle du syndicalisme, qui effectivement voulait donner à ses membres la primauté, ou du moins la décision. Et évidemment que cela pose problème. Cela pose des problèmes d'un nouveau fonctionnement que nous n'avons pas totalement mis en place, qui est celui de comment donne-t-on des éléments pour que la démocratie puisse dans l'entreprise véritablement s'exercer. Qu'est-ce qu'on donne comme éclairage ? Par exemple, si on a des adhérents qui sont majoritairement pour l'exclusion des étrangers, qu'est-ce qu'on donne comme élément pour qu'ils ne restent pas sur cette position ? Quels sont les droits que nous avons dans les entreprises pour utiliser, par exemple, l'intranet pour faire ce travail au sein de l'entreprise ? Or, nous avons aujourd'hui des délégués syndicaux qui sont poursuivis parce qu'ils ont utilisé le réseau intranet et que ce n'était pas dans les droits syndicaux, ce ne fait pas partie de la législation. Et puis, ce qui nous est surtout apparu, c'est que la démocratie n'était pas absolument au rendez-vous de l'utilisation de ces réseaux, et que ça renforçait, ou ça pouvait même parfois renforcer plutôt celui qui parlait le dernier, qui avait en quelque sorte raison. Alors, quelle conclusion en tirer ? Sûrement pas celle de considérer que ces nouvelles technologies ou cette nouvelle société qui est en train de se mettre sur place doit être abandonnée, combattue. Évidemment que ça nous interpelle avant tout en interne, nous. Comment appréhender cette approche ? Et aussi, ces réseaux, cette nouvelle forme de communiquer a joué un rôle de révélateur. Un révélateur de certaines ruptures qui se sont passées entre les appareils et entre les salariés, entre les faits que nous ne représentions peut-être plus totalement le monde du travail tel qu'il était, et que, d'une manière peu brutale, ces réseaux nous faisaient apparaître cela. Alors, est-ce que le salut est dans les réseaux ? Je crois que, comme la crise n'est pas à l'origine des réseaux, le salut n'est pas non plus dans les réseaux. Par contre, de leur utilisation et de la capacité nouvelle que ça nous donne pour intervenir dans le débat public, je pense que ça permettrait au syndicalisme de rebondir, considérant évidemment qu'il doit prendre en compte qu'il n'est plus le seul sur les terrains réservés qui étaient les siens. Eh bien, durablement, d'autres structures, d'autres organisations se sont établies. C'est peut-être en coopérant avec elles. C'est aussi en agissant pour que notre société accorde de nouveaux droits, pour que ces réseaux soient peut-être régulés. J'ai du mal à trouver le terme qui convient, mais quand même, un peu de ça. Compris que tout le monde puisse avoir accès à ces réseaux, ce qui est loin d'être le cas. C'est que des mythes plus ou moins bien vécus, ou plus ou moins réel, comme la gratuité, soit mieux travaillé, soit mieux prise en compte par la société, y compris par le modèle économique qui préside aujourd'hui à cette circulation de l'information. Enfin, bref, vous l'aurez compris, cela nous interpelle beaucoup, mais je ne mets sûrement pas à ces réseaux la raison de nos difficultés, mais j'y vois peut-être une possibilité de les solutionner, ou du moins d'être les vecteurs d'une idée nouvelle que le syndicalisme devrait pouvoir donner de lui-même au monde du travail.
Alors, nous passons tout de suite à l'avant-dernier intervenant. Je laisserai la parole en dernier à Nina Mitz. Augustin Legrand, votre position ? Comédien, cofondateur de l'association Les Enfants de Don Quichotte. Je n'en dis pas plus, à vous.
Bonjour.
En moins de 10 minutes.
En moins de 10 minutes, ça va être dur. Ça va être compliqué. Écoutez, nous, on est un petit peu intervenus sur la scène médiatique et sur la scène politique il y a à peu près 3 ans et demi maintenant. C'était l'hiver 2006-2007, pendant la campagne présidentielle. Et moi, à l'époque, j'étais comédien intermittent avec un chômage qui me permettait justement de voir venir un petit peu. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'imaginer cette action, qui était une action un peu folle, qu'on a fait avec un tout petit groupe d'amis. Il y avait mon petit frère, mon beau-frère, bon, c'est très familial, hein, et puis un ami d'enfance. Voilà, et on est parti avec cette idée que moi j'ai essayé de faire partager justement à ses proches, parce qu'on a du mal à faire les choses seuls, de partir dormir dans les rues de Paris pendant 2 mois et essayer de proposer à travers un blog des portraits de personnes qui vivent à la rue, avec qui on allait partager un moment, pour essayer de convaincre des internautes, des personnes entre guillemets bien logées ou mal logées, mais en tout cas logées, à venir sur un campement qui allait s'installer dans Paris. C'était le 1er décembre 2006, on avait décidé de cette date, et puis on s'était donné ça comme action. Ce campement avait pour but, évidemment, de faire bouger les pouvoirs publics sur un droit fondamental, qui est le droit au logement, qui est le droit à une vie décente, sachant que ce pays a une particularité quand même, c'est qu'on a de très très nombreuses personnes qui sont à la rue, un système aussi pour gérer les personnes qui sont justement en situation de détresse, qui est un système composé de multitudes d'associations, qui sont des associations gestionnaires. Par exemple, il y a Emmaüs, il y a le Secours catholique, il y a l'UNAFAM, il y a Aurore, enfin il y en a de multitudes, parce que les gens qui sont à la rue ont des problèmes qui sont différents, complexes, multiples, et il faut de l'accompagnement pour les sortir de la rue. Donc ces associations-là existent depuis très très longtemps. Elles sont gestionnaires, elles sont dans une attitude de lobby avec les pouvoirs publics, qui sont souvent un lobby direct. C'est-à-dire qu'on va essayer de prêcher pour sa chapelle. On va essayer d'obtenir de l'argent pour les femmes battues, parce qu'on s'occupe de femmes battues. On va essayer pour France Terre d'Asile d'obtenir de l'argent pour les personnes qui sont en situation irrégulière. On va essayer pour les Restos du Cœur d'obtenir de l'argent pour avoir des tarifs sur de l'aide alimentaire moins chère. Mais ce qui fait que finalement, cette division de tous les acteurs permet au pouvoir public de gérer cette crise, qui est une crise continue. Il y a plus de morts en été qu'en hiver. Mais de gérer cette crise médiatique tous les hivers parce qu'il y a des gens qui meurent de froid et que c'est à ce moment-là qu'on en parle, les pouvoirs publics arrivent à faire des réunions de crise avec quelques acteurs qui vont être plus conciliants parce qu'ils ont obtenu 2-3 millions d'euros de plus, avec d'autres acteurs qui, sous la menace, entre guillemets, parce que Emmaüs avait fait par exemple en 98 une conférence de presse sous l'hôtel des finances pour dénoncer le fait qu'il y ait un manque de budget, et il s'était retrouvé confronté à des services de l'État qui avaient appelé l'association en disant « Écoutez, vous êtes gentil, mais l'année prochaine, vous n'aurez pas la subvention dédiée parce que, justement, vous avez pris position frontalement et médiatiquement contre nous. » Donc, quand on est gestionnaire, quand on est tributaire des pouvoirs publics, c'est extrêmement compliqué de faire du lobby efficace, entre guillemets. Donc, on fait du lobby, on essaie de faire avancer la connaissance sur ces problématiques, parce qu'il faut savoir que les hommes politiques, en tout cas nos députés, travaillent sur des problématiques qui sont des problématiques très visibles, parce que c'est celles-là, finalement, qui les mettent en danger électoralement. C'est celles-là aussi, ou en tout cas c'est sur celles-là où on peut faire un vrai retour sur investissement en termes d'action politique, retour sur investissement dans les urnes. Le problème des gens de la rue, le problème du mal logement, le problème du logement trop cher, ça, c'est pas un problème qui, finalement... Et c'est pas un problème récurrent, en tout cas, dans l'intervention des politiques. Aujourd'hui, on a, par exemple, un président, Nicolas Sarkozy, qui avait fait une promesse très très forte au moment du canal Saint-Martin. Il avait dit, moi, si je suis élu, dans 2 ans, il n'y aura plus personne à la rue. Bon, maintenant, ça fait 3 ans. On doit avoir à peu près 300 000 personnes qui sont à la rue, 3,5 millions de personnes qui sont considérées comme mal logées. Donc ça, c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui est une fondation qui n'est pas justement tributaire des subventions justement de l'État. Ça fait toute la différence. Le rapport mal-logement de la Fondation Abbé Pierre, c'est un rapport qui tous les ans décrypte les politiques publiques et qui dit à quel point on va dans le mur et à quel point il y a du gâchis social, à quel point c'est contre-productif. Mais s'ils peuvent le faire, ce rapport-là, c'est que la Fondation, et l'Abbé Pierre était malin là-dessus, hein, parce qu'il a monté l'association Emmaüs, gestionnaire justement, les communautés Emmaüs, autonomes, parce qu'elles vendent de la broque, elle loge des personnes, truc. Et puis la Fondation Abbé Pierre, qui était une fondation, 30 millions d'euros par an de budget de fonctionnement, pour payer des experts, des chercheurs, pour mener des expérimentations, et puis faire ce rapport de mal logement tous les ans, qui est quand même un pavé dans la mare. Donc moi, c'était suite justement à ce rapport mal logement que j'avais vu à quel point la situation était complètement incroyable dans ce pays. Quand même, 3,5 millions de personnes qui sont mal logées, qui vivent dans des caravanes, dans des campings, dans des caves, c'est extrêmement contre-productif. Ouvrir des chambres tous les hivers parce qu'il fait froid, alors qu'il y a plus de morts en été, c'est extrêmement contre-productif aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? On les prend, on les loge pendant une nuit, deux nuits, le lendemain, il faut qu'elles refassent le 115 pour retrouver une place dans un autre hébergement. Comment est-ce qu'on fait du suivi social? Comment est-ce qu'on sort ces personnes de la rue? Ben finalement, on ne les sort pas, on les laisse dans un système de portes battantes, de portes tournantes, pour gérer une pénurie de places. On va mettre à l'abri une personne pendant 2 jours, elle va se retrouver à la rue derrière pendant 15 jours, on va remettre à la rue, et ainsi de suite. Ici, à Versailles, dans le coin, là, on a pas mal de gens qui dorment dans les bois, qui sont cachés. Alors, on entend un petit peu parler d'eux en hiver, parce que c'est très impressionnant d'aller filmer des personnes qui vivent sous la neige dans une ville comme Versailles. Et il y a une accroche médiatique, quelque part, pour en parler, parce que là, c'est... Voilà, donc on s'est saisi de ça finalement, de cette dichotomie entre la problématique, les droits existants, la réalité de terrain, la méconnaissance de l'opinion par rapport à ce sujet, et on s'est dit, il y a vraiment, moi j'ai une formation d'avocat, c'est-à-dire que j'ai une maîtrise en droit fiscal, et je suis devenu comédien par la suite, et je savais que sur cette problématique-là en tout cas, on avait la possibilité de lever un voile par une action forte, médiatique, où on allait nous exposer le fait qu'on n'était pas des experts de la problématique. C'était aussi notre force, c'était de dire on n'est pas des experts. Il y a des experts qui sont gestionnaires, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont des solutions, mais qui ne peuvent pas rentrer dans un rapport de force franc avec les pouvoirs publics. Donc l'idée, c'était de s'inviter justement dans l'agenda médiatique et enfin d'essayer de rentrer dans une négociation avec les pouvoirs publics. Donc c'était Borloo, Madame Vautrin, c'était Monsieur Chirac à l'époque, avec tout le secteur associatif. Bon, il s'est avéré que pendant ces 2 mois de rue, on a eu beaucoup de mal à mobiliser sur les réseaux sociaux. On a fait des magnifiques portraits. On a montré tout le panachage justement des gens qui sont à la rue, parce que les gens à la rue, finalement, c'est ceux qu'on a bien voulu vous montrer, en tout cas avant nos actions. C'est ceux qu'on voit tous les jours. Donc ça va être les plus indigents, ça va être les plus alcoolisés, ça va être les personnes qui ont le plus de problèmes psychologiques. Donc on se dit finalement, les gens de la rue, c'est qui? Bah, c'est des pochetrons, c'est des gens qui veulent pas bosser, c'est des types qui... ils veulent pas s'en sortir quelque part, donc pourquoi agir pour eux? Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 30% des gens qui sont à la rue qui travaillent. C'est une réalité. Donc c'est un premier chiffre. Avant notre action, je crois que c'était vraiment très peu visible, parce que c'est vrai que le journaliste de TF1 préfère aller interviewer tous les hivers le père Maurice qui est sous le pont de l'Alma, qui est un mec très sympa avec sa bouteille en plastique de vinasse, sa grosse barbe, et on lui file 20 euros, on fait un petit portrait et c'est réglé. Donc à un moment, c'était aussi pouvoir donner la parole à tous ces gens qui sont à la rue sur une action militante forte, où justement on agissait finalement pour casser les préjugés. Et le fait de casser les préjugés et de préparer l'opinion à prendre connaissance finalement de cette problématique telle qu'elle existe, c'était quelque part lancer un rapport de force avec les pouvoirs publics, surtout à la veille d'une campagne présidentielle. Donc on a réussi à quelques-uns à monter ce campement sur le canal Saint-Martin. Il y a eu un vrai coup de feu médiatique, parce que je crois que les médias aussi étaient en attente de pouvoir parler de cette problématique autrement que par des vagues de froid en hiver, ou autrement que par quand est-ce qu'on en parle sinon à part les vagues de froid? On en parle qu'à ce moment-là, je crois. Donc voilà, donc il y a eu un coup de feu médiatique vraiment qui nous a permis, nous, de lancer en tout cas un rapport de force avec les pouvoirs publics. Sauf que au moment du canal Saint-Martin, avec toutes ces tentes, toutes ces associations dont je vous ai parlé, Emmaüs, Fondation Abbé Pierre, Médecins du Monde, etc., etc., ne sont pas venus, parce que notre action était trop visible, trop forte. Le lobbying que eux menaient, à TD Carmonde aussi par exemple, c'est un lobbying où on envoie des lettres aux députés, on va essayer de les voir, on va essayer de prendre des rendez-vous avec des groupes justement à l'Assemblée pour essayer de faire passer des lois, faire passer. Et il y avait notamment une loi, un projet de loi qui était attendu depuis très longtemps par le secteur associatif, qui était le droit au logement opposable. Ce fameux droit qui ne reste qu'un droit ou qu'un recours supplémentaire. Vous savez ce que c'est plus ou moins le droit au logement opposable? C'est qu'on pointe la responsabilité, parce que l'État n'a pas communiqué sur cette loi, c'est-à-dire qu'on en a parlé, on l'a mis en place, mais évidemment, puisqu'il n'y a pas de logement et que ce n'est pas les juges qui vont construire, et qu'au final, ce mécanisme qui vous permet à vous de faire valoir vos droits, justement, en disant « je n'ai pas de logement, à vous, préfecture, de me loger », vous débrouillez avec quel contingent, la mairie, enfin, vous devez me loger. Si jamais le préfet n'a pas de logement à vous fournir, mais que vous êtes considéré comme prioritaire, au regard de la loi, à ce moment-là, le préfet est condamné à se payer une amende à lui-même. Donc bon, pour les mal logés, finalement, c'est terrible. Deuxièmement, cette loi a été finalement très méconnue de la part des gens qui sont concernés. C'est 600 000 ménages qui auraient pu se saisir de ce nouveau droit en année 1. Il y a eu 50 000 personnes qui se sont seulement saisies de cette loi. Je vais vous poser une question juste pour savoir. Est-ce que vous avez une idée de combien on est à avoir droit dans ce pays, le droit au logement social, en termes de pourcentage? Un petit quiz comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on est 20% à avoir droit au logement social, plus ou moins 20%? On est 60% à avoir droit au logement social en France. Pardon? Donc on est 60% à avoir droit au logement social, et finalement, moi j'ai fait beaucoup de débats avec un film qu'on a fabriqué aussi, et ça aussi c'est un acte de lobbying fort, c'est-à-dire que cette action, on savait qu'elle pouvait rester très symbolique, c'est-à-dire que moi tous mes proches m'ont dit « ça marchera jamais ton histoire, il y aura des CRS, on n'arrivera jamais à installer de campement ». Donc pour convaincre le petit groupe, j'aurais dit « on va prendre une caméra avec nous, et en plus de faire des portraits qu'on va mettre sur Internet, on va filmer notre action, notre tentative, et si jamais on se fait expulser avec nos tentes sur le canal Saint-Martin, et ben on aura un film pour raconter la tentative ». Pour raconter qui habite à la rue, qui sont tous ces gens, pour raconter aussi cette tentative de citoyens lambda de faire bouger finalement cette problématique. Donc on a eu un film qu'on a fait, fabriqué, moi j'ai fait 150 débats avec, des gens qui étaient plutôt plutôt attirés par le sujet quand même, des gens justement qui travaillent dans les associations, des gens qui sont censés être un petit peu connaisseurs de la problématique. Je peux vous assurer que c'est dramatique de voir à quel point on est tous ignorants. Alors moi, je suis un petit peu expert maintenant de la problématique du mal logement, des sans-abri, mais je me rends compte que je ne suis pas expert sur plein d'autres problématiques tout aussi urgentes. Et ce qu'il y a de terrible dans ce pays, ici, alors je suis à combien de minutes là ? Parce qu'il faut que je fasse attention, vous savez, j'ai dépassé. Voilà, on se rend bien compte que malgré le fait d'avoir réussi à s'inviter chez Borloo, on a dû négocier pendant 30 heures avec lui, à obtenir une loi avec des décrets, parce qu'on a aussi fait un lobbying extraordinaire pour obtenir les bons décrets, parce qu'une loi, finalement, c'est rien s'il n'y a pas les décrets d'application qui vont avec. On a obtenu 1 milliard d'euros de financement pour construire du logement très social. Le logement très social, ça sert justement à sortir tous ces gens qui sont en centre d'hébergement, qui travaillent, toutes ces familles, tous ces gens qui sont à l'hôtel, 1 million d'euros par jour qui sont dépensés dans les hôtels. Tous ces gens-là, finalement, manquent de logement. C'est des gens qui travaillent. Donc faire construire du logement pour eux, c'est du logement très social. On a obtenu ça. Et puis on a obtenu surtout la promesse d'un Borloo qui est quelqu'un de, qui a été quelqu'un de très à l'écoute, hein, et qui nous a dit... On a compris à quel point il y avait du gâchis social. On a compris à quel point ça nous coûtait cher de mal gérer cette problématique, quoi. Donc maintenant, je vous assure qu'avec le droit au logement pesable, avec cette épée de Damoclès qu'on s'accroche au-dessus de nos têtes, on va engager une action forte, à droite. Et Sarkozy a fait cette campagne aussi en disant « Moi, si je suis élu, dans 2 ans, il n'y aura plus personne à la rue. » Parce que c'est incohérent, parce que ça va à l'encontre de tous nos droits fondamentaux, etc. etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après l'élection ? Il y a eu une baisse des budgets de 10%. Ce qu'on nous a donné au mois de décembre, janvier, on nous l'a repris en juillet sur la loi de finances qui suivait. Donc vous voyez à quel point les politiques, finalement, gèrent des situations qui sont des épiphénomènes médiatiques en se disant « De toute façon, cette problématique-là, on va gérer, on va se débrouiller. » C'est pas grave. Bon, il s'avère qu'on a remis des tentes 8 mois plus tard. On s'est fait expulser très violemment devant Notre-Dame. On a rencontré le Premier ministre à l'époque avec tout le secteur associatif. Juste pour finir, ça va prendre 2 minutes, mais c'est important de montrer à quel point on a réussi à continuer à faire du lobbying malgré le fait de ne plus avoir ces tentes, malgré le fait de ne plus avoir cet objet comme ça de rapport de force. Et donc on a réussi avec le secteur associatif en remettant des tentes l'année d'après et en faisant en sorte que le secteur ce coup-ci vienne avec nous parce qu'ils étaient en comité de suivi des politiques publiques au ministère parce qu'on a beaucoup travaillé avec le secteur associatif et finalement notre grande réussite je pense c'est pas la loi, c'est pas le milliard d'euros qu'on a obtenu mais c'est le fait d'avoir réussi à mettre en collectif toutes ces associations qui sont des associations gestionnaires. Donc c'est 800 associations qui sont unies maintenant depuis 3 ans, 2 ans et demi, qui essaient de faire un lobbying fort avec les pouvoirs publics, avec cette espèce d'arme qui peut être l'action des enfants de Don Quichotte, parce que nous on peut se permettre d'agir alors que eux finalement sont dans des méthodes de lobbying beaucoup plus douces. Donc on a essayé d'interpeller, on a remis des tentes, on s'est fait expulser par les CRS, malgré tout. On se rend bien compte que ce sujet-là est un sujet complètement abandonné et qu'aujourd'hui, face au CRS, on ne peut juste rien faire. Moi, j'ai été condamné à payer 1 000 euros par le tribunal il y a 8 mois parce que le 15 mai de l'année dernière, de cette année, là, en 2010, on a remis des tentes face à Concorde et on s'est fait expulser encore violemment. Donc, tout ça pour vous dire que c'est...
On y reviendra. Hein.
Ah oui, parce qu'après, il y a une... D'accord.
On y reviendra. Allez, merci. Ouais, parce qu'il faut que ça rebondisse un peu. Alors... Je vais passer la parole à Nina Mitz, qui est en position difficile de terminer après toutes ces variantes de l'action. Nina Mitz est ancienne élève de l'INSEAD. Elle a été la fondatrice du centre d'accueil de la presse étrangère et d'ailleurs elle a exercé la fonction de porte-parole à l'international en 97 au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans le gouvernement Jospin, sous le gouvernement Jospin. Et elle est présidente directeur général, c'est le contraste avec Augustin Legrand, qui n'est que avocat et comédien. Et elle est présidente directeur général de Financial Dynamics France, qui s'occupe de réseaux internationaux intégrés, de conseils stratégiques en communication financière, médias et affaires publiques. Voilà, donc je lui donne la parole. pour clore ce tour de table.
Merci, Michaud. Je crois qu'effectivement, le rôle est difficile parce qu'il y a des lobbies qui ont des belles actions et je pense que celle des Don Quichotte est une association qui certainement mérite d'être entendue avec sympathie. Il y en a d'autres, comme celle des syndicats, où au fond, je pensais tout à l'heure qu'au fond, un syndicat, c'est un lobby. Et c'est un lobby également qui attire la sympathie parce qu'il défend la cause des travailleurs, bien mal. C'est une question dont nous ne débattrons pas ici. Globalement, ces deux exemples ne permettent pas de comprendre pourquoi, en général, la notion, le rôle des lobbies est diabolisé. Je dirais même qu'il est sans doute diabolique et je dirais qu'il est utile. Je résumerai donc un petit peu ce que je voudrais vous dire sous ces trois mots. Diaboliser, on ne peut pas être ici dans cette salle du jeu de paume sans rappeler que c'est Jean-Jacques Rousseau qui avait déjà dans ses réflexions opposé le bien public à l'intérêt privé, la res privata, la res publica, et que traditionnellement en France on considère que le législateur ne doit pas être influencé pour des intérêts privés ou corporatistes parce que c'est suspect, c'est source de corruption. Et je pense qu'on peut difficilement parler des lobbies sans malgré tout toucher autrement que pudiquement ou du moins pas pudiquement la notion de financement. Cette notion rousseauiste, cette notion qui vient de la Révolution et qui donc donne une image qui n'est pas très favorable des lobbies, mais qui a également empêché en France un développement normal, transparent du travail d'information des pouvoirs publics, a, comme M. de Vavrin l'a très bien dit, eu une évolution différente dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où au contraire, la notion, et pardonnez-moi également puisque j'ai cité Rousseau de citer Tocqueville, où au contraire la notion de droit pour les citoyens de défendre leur point de vue et de se défendre de tout arbitraire qui pourrait être jugé ou qui pourrait être décidé par les gouvernements, par les élus du peuple, est quelque chose qui est extrêmement bien installé. Donc il y a deux conceptions qui sont deux conceptions qui s'opposent totalement avec une notion en France qui est une notion depuis toujours de soupçon, de prévarication. Aux États-Unis, non. Et pourtant, en 1972 déjà, le sénateur McGovern avait dit « We are losing our democracy to big money ». La démocratie, notre démocratie se perd dans l'argent. Depuis, et aujourd'hui nous sommes confrontés à cette crise économique et financière comme il n'y en a pas eu depuis 1929, cette problématique se pose avec acuité. Quand on voit l'argent qui est dépensé aux États-Unis actuellement pour contrer les tentatives du président Obama pour faire passer sa loi sur une nouvelle régulation financière, on peut se demander effectivement si la démocratie ne se perd pas un peu dans l'argent. C'est 1,3 milliard de dollars qui viennent d'être dépensés, dont 30 millions en honoraires qui ont été partagés entre 10 films de lobbying washingtonienne représentant 130 banques et organismes financiers. 1,3 milliard. Le nombre de lobbyistes à Washington, et je parle peut-être ou j'ai l'air de parler contre mon métier, mais ça n'est pas ce à quoi je vais arriver, comme vous le verrez. Néanmoins, le nombre de lobbyistes à Washington est passé de 16 000 à 32 000 en 5 ans. Sur K Street, la rue des lobbyistes à Washington, il y a 8 lobbyistes pour un élu. À Bruxelles, il y a 20 000 lobbyistes pour 15 000 fonctionnaires. On peut se demander effectivement s'il n'y a pas quelque part, je ne dirais pas une désintégration de la démocratie, mais en fait s'il n'y a pas quand même quelques problèmes auxquels notre démocratie est confrontée et s'il ne pourrait pas y avoir un cadre, une régulation si on n'est pas en train d'assister à quelques excès. Et là, j'ai parlé de la crise économique et financière, mais j'aurais pu parler des problèmes pétroliers, j'aurais pu parler de ce qui est en train de se passer dans le golfe de Louisiane, et j'aurais pu vous donner des chiffres au moins aussi importants sur l'action des lobbyistes du lobby pétrolier aux États-Unis. Comme toujours, aux États-Unis, vous avez des institutions qui sont des contre-pouvoirs. Il y a, par exemple, un institut qui s'appelle le Center for Public Integrity, qui a étudié toute la production des quatre principaux leaders politiques américains, donc des deux chambres, et qui a étudié absolument tout leur financement, tous leurs travaux, puisque les financements sont autorisés, tous leurs travaux, tous les communiqués de presse qui sont sortis et tous les votes qu'ils ont faits. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation absolue pour chacun d'entre eux entre les financements dont ils ont bénéficié et les votes qu'on a pu relever. Il y a donc un problème. Et pourtant, je dirais que les lobbies sont néanmoins utile. Donc, diabolisé, diabolique, mais utile pourquoi ? Utile parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre des associations ou des syndicats dans le cadre de ce qu'on peut appeler un lobby, mais parce que, au fond, ceux qui travaillent dans la fonction publique, que ce soit dans, par exemple, la Commission de Bruxelles ou que ce soit dans les différentes institutions de chaque pays, souvent n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience économique, ils n'ont pas d'expérience industrielle, et donc ils ont besoin d'avoir un apport d'expertise. Cet apport d'expertise, c'est aussi à cela que les lobbies peuvent servir. Ils ont besoin également d'apporter des financements. On a vu que justement, on allait peut-être à la recherche de ces financements. Mais aujourd'hui, il y a peut-être plus que jamais besoin, au stade de notre démocratie, qui justement ne sait plus très bien où elle va, peut-être qu'il y a besoin justement de financer des recherches sur la vie civique et politique. Or, ce qu'on voit, c'est que nos instituts de réflexion ont soit des financements publics limités, ou bien qu'ils n'en ont pas, ou que ces financements ne sont pas transparents. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons sans doute besoin d'apporter expertise, d'apporter des moyens de réfléchir, d'apporter des moyens de voir où on va, comment on avance, comment on peut améliorer la vie publique. Et pour cela, ce qu'il faudrait, je pense, c'est reconnaître une fois pour toutes, ne pas faire un peu l'autruche qui cache sa tête dans le sable. Oui, les lobbies existent. Oui, il faut les reconnaître. Oui, il faut peut-être accepter les financements à condition qu'ils soient transparents, connus, affichés, réglementés, contrôlés. Et peut-être à ce moment-là, également, bien utilisés.
Merci. Alors, avant de passer la parole à la salle, pour des questions, hein, j'indique bien, parce que comme on a un panel important, ça sera pour des questions et pas pour raconter votre vie, si possible. Je vais quand même refaire un tour de table très rapide, et là, en vous demandant vous aussi d'être discipliné, c'est-à-dire à chacun d'entre vous de réagir par rapport à ce qu'il a entendu, que ce soit un point particulier, de préférence un point particulier ou certains points. Et je commence tout de suite, parce que comme je voyais qu'elle avait des réactions, par Sylvie Brunel. Voilà.
Vous m'avez pris de court.
Sur ce qu'ont dit les autres. Voilà.
Alors, vous me prenez de court. En même temps, moi, j'ai écouté avec énormément d'intérêt l'ensemble des interventions.
Oui.
Non, je crois que c'est qu'il n'était pas branché. Ça ne relevait pas de ma compétence. Oui, donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des interventions et chacune, je trouve, donnait un coup de projecteur différent mais complémentaire. Merci d'ailleurs Yves Michaud de ce choix judicieux. Et ce que j'ai vu de très marquant, c'est que quand Augustin Legrand dit finalement il n'y a que quand on a manifesté notre capacité de nuisance qu'on a été entendu, hein, c'est ça finalement, vous avez dit... On a manifesté notre capacité de nuisance, et là, on nous a écoutés avant les élections, après les élections, on nous a oubliés, mais finalement, quand on s'est réunis à 800,
là, on a eu une capacité de frappe et aujourd'hui, on peut changer les choses. Et ça vient sur ce que dit Nina, parce que quand elle dit, finalement, il y a 8 lobbyistes pour un homme politique à Washington, hein, c'est bien ça, j'ai retenu, on se rend compte que les associations n'ont pas d'autre choix que de reprendre cette méthode d'action si elles veulent à leur tour faire entendre la voix des sans-voix. Et c'est très marquant de voir que finalement le monde associatif a été obligé de reproduire ce qu'était le monde de ce que faisait le monde de l'argent, hein, parce que vous disiez, Nina, tout à l'heure que c'était vraiment aussi un pouvoir de l'argent, et finalement le pouvoir des associations arrive à le contrebalancer avec d'autres méthodes. C'est ce qui m'a marqué.
Daniel, ta réaction? Est-ce que le monde de l'argent, par exemple, n'est pas obligé de reprendre les modes de la communication, non, par exemple?
Je voudrais rebondir sur l'intervention de mon voisin pour m'être occupé un certain temps dans ma vie de problèmes de logement social. Il y a un vrai problème en France, c'est que depuis plus de 30 ans, l'État ne fait pas ce qu'il faut en matière de politique sociale et que nous manquons de logements sociaux. Alors on peut défiler avec des pancartes en disant il faut loger tout le monde, mais si on n'a pas de quoi les loger, qu'est-ce qu'on fait? Alors on attire l'attention sur le problème, mais nous allons rentrer quand même dans des périodes de restrictions budgétaires, qu'on le veuille ou non. Il va bien falloir réduire la dette, hein, d'une façon ou d'une autre, sur 15 ans peut-être, mais il va bien falloir réduire la dette, et chacun va se battre pour avoir sa part du gâteau qui reste. Bon, j'ai retenu ça. L'autre chose que je retiens de cette table, ça a été dit clairement par, mon collègue syndicaliste à l'autre bout, c'est un problème de rapport de force. Mais c'est vrai dans la vie, ça, souvent. Dans une société normale, tout est un peu ou prou rapport de force. Et rapport de force, parce que pour être en bonne position de rapport de force, on cherche à émouvoir l'opinion publique, on cherche à avoir des relais médiatiques, etc. Mais j'ai entendu aussi que la démocratie, peut-être pour d'autres raisons, était un peu en péril avec tout ce qui se passait. Mais si nous allons vers une société de rapport de force, où est la démocratie? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui reste? Donc, je n'ai pas la solution, mais je crois qu'il y a plein de problèmes quand même devant nous.
Michel Muller, votre réaction?
Oui, je dirais que la question du lobbying, je ne suis pas sûr qu'on puisse assimiler le syndicalisme au lobby tel qu'on les définit ou tel qu'on les a décrits, Madame Mitz, et que j'ai beaucoup apprécié cette mise en évidence qu'il y a à côté des élus, des actions qui sont en fait destinées ou devraient être destinées à donner un éclairage, si j'ai bien compris, aux élus, mais en fait qui sont là pour défendre des intérêts particuliers. Donc mon problème, c'est que en tant que syndicaliste, moi je ne me suis jamais engagé pour défendre des intérêts particuliers. Si on considère que les salariés, c'est des intérêts particuliers, mais je ne le crois pas. Je crois que c'est véritablement un problème d'intérêt général. Donc c'est là où je m'interroge, et ça rejoint un peu l'interrogation qu'a M. De Havrin sur le rôle de la démocratie. C'est-à-dire, effectivement, la question des rapports de force n'est pas un problème en soi si une société est en capacité de les gérer, de les structurer, de leur donner la possibilité de s'exprimer. Ce qu'a fait Augustin Legrand, nous l'avons fait, je me souviens d'avoir... défense d'un journal qui s'appelait Le Parisien Libéré, on a arpenté, je ne sais pas, pendant des mois et des mois, on a occupé tous les monuments parisiens, on a accueilli les étapes du Tour de France quasiment tous les jours, enfin bref, je passe sur les détails d'actions spectaculaires de ce type. Donc je crois que l'histoire même de notre pays est jalonnée de l'obligation de faire ces actions de ce type pour alerter, mais au bout, c'est quand même la question de l'intérêt général qui devrait être posée. Or, il me semble qu'aujourd'hui, on défend plutôt bien les intérêts particuliers, chacun se structure plutôt bien de ce côté-là, mais c'est, me semble-t-il, un peu au détriment de l'intérêt général.
Augustin Legrand, mais avant que vous réagissiez, moi je vous pose une question. Je ne devrais pas, parce que j'ai essayé de m'en abstenir, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, pour mener une action comme celle que vous menez, il faut être avocat et comédien? Parce que c'est ça que vous avez dit. Et d'autre part, j'ajouterai une chose. Non, mais c'est sérieux, hein, c'est pas du tout une méchanceté. J'ai été très frappé dans l'action des Don Quichotte par la qualité esthétique. Et est-ce que c'est un élément important aujourd'hui par rapport à la communication ? Voilà.
Oui, alors sur une action lobby telle qu'on l'a imaginée, c'est évident que tout est il y avait une stratégie du début à la fin qui s'est passée finalement magnifiquement bien. C'est-à-dire que moi, je pensais vraiment pas qu'on allait obtenir autant d'avancées, etc. Mais les tentes, on les a mis sur le canal Saint-Martin parce qu'on s'est fait expulser de la place de la Concorde, puisque le premier rendez-vous était place de la Concorde. Et c'est vrai que c'était un petit peu utopique ou naïf de croire qu'on allait pouvoir mettre un campement géant comme ça à place de la Concorde. Donc on était accueillis 2 heures avant par 400 CRS, beaucoup de camions, on s'est installé au canal Saint-Martin et l'action de lobby finalement c'était de dire, on crée un endroit finalement un espace de mise en scène où on donne la parole à des acteurs qui ne l'ont plus quoi, ou qui ne l'ont pas. Et on explique à ces acteurs, donc les sans-abri qui souvent sont aussi eux-mêmes ignorants et par rapport aux associations mais dans quelles conditions on a accueilli et puis alors tous les noirs qui débarquent d'Afrique ils passent avant nous, ils ont des places avant nous, les associations se font du blé sur notre gueule et nous on n'a rien, il faut voir les bourgeois qui comprennent rien à ce qu'on vit, on leur tend la main, on se fait cracher dessus, va bosser connard, comment on fait pour aller travailler quand on n'a pas d'adresse, en gros c'était tout ça. Donc il fallait expliquer aussi, et c'est en ça qu'il y avait une mise en scène, il fallait expliquer et aux sans-abri et aux médias et à l'opinion le sens de notre action. Et pour ça, il fallait une action très claire, d'où les tentes alignées, un petit peu comme à l'armée, quoi, dans un camp, d'où l'absence de feu sur ce campement, parce que moi je voulais pas qu'il y ait de feu, pas qu'il y ait de troubles à l'ordre public, d'où l'absence de violence. On a vraiment contenu cette espèce d'endroit où normalement on a 10 travailleurs sociaux pour 40 personnes dans un centre d'hébergement. Mais nous on était 10 pour 400 sans-abri. Et pas des travailleurs sociaux. Alors la vraie clé finalement, moi ce que je vois, c'est... On est à chaque fois très peu nombreux dans nos actions. Quoi. On a, nous, les Don Quichotte, on n'a pas d'argent. On a à peu près 10-15 000 euros par an. On est 2 bénévoles à Paris, 2 bénévoles à Toulouse, 3 à Strasbourg, 2 à Lyon. Et cette action, malgré tout, a porté ses fruits comme jamais, finalement, sur ce secteur-là. À part l'AB en 54 et par la suite, finalement, ce pavé dans la mare qu'on a réussi à acheter, on se rend bien compte aussi à quel point c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est totalement démunis. Quand on met des tentes, on est 400. Les gens, moi, m'appellent quand ils vont être expulsés, mais sinon, ils s'en foutent royalement. On est 10 millions à être concernés plein fouet par la crise du logement. Quand on parle de pouvoir d'achat, on parle évidemment de logements trop chers. Quand les gens, en hiver, arrivent plus à se chauffer ou se nourrir, mais c'est parce qu'ils payent leur logement. Enfin, vous avez vu, les prix ont augmenté, ils ont doublé en 10 ans. Le prix des charges a explosé. Moi, j'étais à Clichy-sous-Bois. J'ai vu des gens qui habitent dans des tours, dans des espèces de bidonvilles verticaux. Ils n'ont plus d'ascenseur depuis 5, 6, 7 ans. Ils payent 400 euros de charges par mois, plus que sur un appartement aux Champs-Élysées. Bon. Non, mais c'est voilà. D'accord. Donc, en gros, moi, je suis. Non, mais moi, je suis juste toutes ces prises de parole comme ça me rendent finalement extrêmement pessimiste. Quoi. C'est-à-dire que je me rends bien compte. Et je suis pas d'accord, parce qu'il y a des pays nordiques, finalement, où on arrive à mettre en place des politiques publiques intelligentes, parce que le lobby des experts, le lobby de gens, finalement, qu'on devrait écouter ici dans notre pays, est efficace naturellement, quoi. C'est-à-dire que, on écoute, on cherche du consensus, et moi, je tiens aussi à dire que, par exemple, le député UMP, Étienne Pinte, a fait un travail extraordinaire à nos côtés. Vous devez le connaître, il est de Versailles et de ses circonscriptions. Il a fait un travail extraordinaire. Pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que cette problématique le touchait pour des raisons personnelles. Et c'est pour ça qu'il s'est penché sur cette question, qu'il a décrypté et qu'il nous a accompagnés, malgré le fait qu'il y a un clivage partisan sur ces questions. Parce que, alors que la gauche n'a pas fait plus que la droite. Hein. Il faut aussi rappeler les choses. C'est terrible, c'est vraiment terrible. On est sur un secteur où finalement le bon sens dirait il faut agir, il faut y aller, il y a de la contre-productivité, il y a du gâchis social. Enfin, des enfants qui sont mal logés, comment vous voulez... Moi j'ai une fille qui est en ZEP, elle a 6 ans, les 3 enfants qui foutent le bordel dans sa classe, c'est 3 mômes qui habitent dans des taudis, quoi. Combien ça coûte d'avoir 3 mômes qui... Voilà. Donc en gros, moi, je dis à un moment, les politiques...
Merci. On arrête parce qu'on va faire des rebondissements. Dernière appréciation, Nina Mitz, et après, c'est à vous.
Moi, je voudrais tout simplement rebondir sur 4 mots qui m'ont paru les plus importants et qui me paraissent être... s'intégrer très bien dans la notion de démocratie. Et ce sont 4 mots qu'a prononcé mon voisin de droite, et c'était informer, communiquer, convaincre et obtenir l'adhésion. Voilà.
Très bien. Alors, merci beaucoup. Maintenant, la parole est à vous. On fait circuler les micros. Encore une fois, soyez rapide. On n'a pas plus de 20 minutes pour ces questions, si on veut, parce que l'après-midi va être long, mais signalez-vous. et posez des questions, s'il vous plaît, en indiquant nominalement à qui vous voulez poser la question. Allez-y, monsieur.
C'est une question pour Madame Mitz.
Pour Madame Mitz, hein,
pour Madame Mitz, oui. J'ai entendu donc des chiffres, 22 000 lobbyistes, si je ne me trompe pas, pour 15 000 fonctionnaires à Bruxelles. Vous disiez aussi que le rôle des lobbyistes, c'était d'apporter une expertise aux élus qui n'en avaient pas. Pourriez-vous nous dire en quoi ce ne serait pas le rôle des fonctionnaires qui, justement, sont à Bruxelles ?
Le rôle des fonctionnaires qui est à Bruxelles est d'étudier les dossiers. Généralement, ils n'ont pas d'expérience autre que celle de la fonction publique, celle de l'administration. Ils ont donc besoin d'avoir des connaissances plus précises que peuvent leur apporter des experts sectoriels. Et ce sont ces experts sectoriels qui doivent venir les voir avant, de façon à ce qu'ils puissent mettre en place des directives qui sont fondées. Sinon, il y a un risque fondamental à ce que les directives ne soient pas assez bien étudiées.
Autre question ? Oui, allez-y, on va vous... Attendez, il y a quelqu'un d'autre qui a demandé la parole avant vous. Non, mais peu importe, un ordre de parole, c'est un ordre de parole, excusez-moi. Chut. Écoutez, c'est profondément... vous aurez la parole, mais à votre tour. Bien, allez-y.
Oui, excusez-moi, ça va vous paraître certainement assez... Pas débile, mais presque. Je voudrais m'adresser à monsieur Augustin Legrand.
Legrand, oui.
Et je me suis toujours demandé pourquoi, justement, j'habite près du canal Saint-Martin, enfin, ben, je passe sur tous les détails, puisqu'on a suffisamment de gens qu'on connaît qui ont été là. Pourquoi est-ce qu'on ne refait pas un recensement au niveau national de toutes les maisons en campagne ou en petite ville proche banlieue qui sont inoccupées? Je pense que ça a été fait à un certain moment, mais ça ne paraît jamais aboutir. En plus, souvent ces maisons ont un petit peu de terrain, de quoi faire vivre une famille à Paris, par exemple, on commence à faire des jardins partagés et tout ça. Il y aurait peut-être, effectivement, plutôt que de penser toujours à concentrer tout le monde dans les villes, comme vous dites, les mettre dans des grands machins où ils n'ont plus d'ascenseur et tout ça, ils seraient peut-être bien aussi contents de se retrouver dans une campagne. Est-ce que c'est faisable, en dehors, bien entendu, des moyens de transport et tout ça? Est-ce qu'on peut réfléchir à ça?
Oui, vous avez raison. Après, se pose la question de l'emploi, se pose la question justement des moyens de transport, etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, c'est une action globale qu'il faut mettre en œuvre. Et en gros, il y a une boîte à outils. Nous, ce qu'on essaie de faire avec ce collectif d'associations, c'est de proposer justement une boîte à outils au gouvernement. De dire, regardez, il y a à peu près 100 outils disponibles pour agir, dont des outils pour agir contre la vacance de logements. Alors, on a en Île-de-France un exemple, 5 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Bon, on pourrait, avec des contrats de bail temporaire, etc., faire transformer ces bureaux en habitation, justement, pour des étudiants ou pour... Bref, il y a énormément de solutions. Ce dont vous parlez est une des solutions. Alors, moi, avec le film... Justement, on a fait beaucoup j'ai fait beaucoup de projections en province, dans des petites villes notamment, et souvent j'allais rencontrer le maire, ou le maire était à la projection, et on parlait de la problématique locale, etc., etc. Et, par exemple, à Château-Gontier, le maire, qui était un maire, d'hiver droite, qui avait été élu depuis 7-8 ans, s'est rendu compte, au moment où je suis venu à la mairie le rencontrer, qu'il avait, enfin, en tout cas, émis le désir à un moment où il parlait à ses services sur une taxe sur les logements vacants, et il croyait qu'elle était mise en place, en fait elle n'était pas mise en place. Et il avait 12% à peu près d'habitations qui étaient vides dans sa ville. Il s'avère qu'il a mis en place cette taxe et que d'un seul coup on a retrouvé, je crois, 30 ou 40% de vacances en moins l'année d'après. Tout simplement, il faut accompagner les personnes. Enfin, voilà, il y a énormément de solutions. Nous, en ce moment, on est en train de monter un espèce d'endroit, un petit peu à l'image des communautés Emmaüs, près de Toulouse, qui est un vieux Carmel, donc il y avait des sœurs qui habitaient, avec 70 chambres, qui étaient vides depuis 3 ans. Il y a 4 hectares de maraîchage qu'on va mettre en place, et on va faire du tourisme solidaire, c'est-à-dire qu'en gros, on va vous inviter, vous, là, à venir en vacances dans le Gers, et vous allez être accueillis par des personnes qui sont des anciennes personnes de la rue, qui vont sortir de centres d'hébergement, justement, en Île-de-France, très saturés. Il faut savoir aussi que l'Île-de-France, ou les grandes villes, c'est là où il y a le plus de nourriture, de solidarité, où on donne des fringues, d'associations, etc. Donc, la précarité vient sur les grandes villes, automatiquement. Donc, il faut proposer des nouvelles offres. Le problème, encore une fois, c'est qu'il faut accompagner ça. Il faut que les politiques accompagnent ça, quoi. Donc, le problème, c'est qu'on ne se fait pas entendre.
Autre question, ici devant la boîte.
Merci. Une question pour Madame Brunel. Vous avez donc évoqué tout ce discours de terreur des organisations en faveur du développement durable. Je me demandais si justement tous ces films alarmistes, notamment, n'avaient pas une vertu d'appel à la conscience, finalement, d'ouverture de débat. Est-ce que vous condamnez absolument tous ces discours terrifiants ?
Alors, non, vous avez raison. Quand on sonne l'alarme, quand on joue les sentinelles, c'est effectivement pour éveiller les consciences. Il y a quand même un risque, c'est que quand vous faites du catastrophisme systématique, les personnes sont accablées. C'est-à-dire qu'on a le sentiment finalement qu'il est difficile d'agir puisque les périls sont tellement imminents et tellement forts qu'ils ne sont plus à votre portée, sauf si, et c'est là ce qui est pernicieux, sauf si vous vous conformez à une sorte de catéchisme d'actions qui sont des actions qui vont vous permettre, par l'accumulation de petits gestes en réalité sans grand impact global, eh bien, de vous donner bonne conscience. Donc, si vous voulez, c'est une logique qui, à mon avis, ne va pas dans le bon sens parce que souvent, on se rend compte qu'on va focaliser sur le citoyen qui est en bout de chaîne en lui demandant de mener une action qui finalement revient à un don, à faire un don à des institutions qui se posent comme médiateurs, sans agir sur les grands processus industriels, les grands processus de transport, etc. Parce que finalement, tout le monde se donne bonne conscience à peu de frais. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît de nature à ne pas aller dans le bon sens. Quand vous culpabilisez quelqu'un et que vous l'accablez, vous n'allez pas en faire quelqu'un qui va avoir envie de s'engager dans le bon sens.
Monsieur, dans la travée centrale, oui.
Merci. Peut-être reste debout, on se verra mieux. Est-ce que ce qui caractérise le lobby, ça n'est pas précisément l'opacité par rapport à l'action militante ? L'action militante, elle est visible. On est d'accord ou pas avec. J'apprécie ce que fait l'association des enfants de Don Quichotte, entre autres. Hein. Bon, on ne va pas tout citer. Mais ce qui caractérise, c'est l'opacité, me semble-t-il. Et c'est, je voudrais relever un propos de M. de Vavrin qui a dit, je ne pense pas trahir sa pensée, l'UIMM représente les entreprises et ses salariés, et donc l'intérêt général. Il me semble que vous avez dit quelque chose de cet ordre-là. Or, précisément, c'est au nom de ce raccourci qu'on va s'autoriser des actions de lobbying, parce que c'est un raccourci qui est évidemment faux, hein, mais du coup, on va le faire de façon beaucoup plus opaque, et en particulier, alors sur la question de l'apprentissage, je ne relèverai pas les multiples erreurs qui ont été faites, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que vous n'avez pas parlé, par exemple, d'actions de lobbying qui ont été menées contre l'augmentation des salaires des apprentis dans les années 80-90, par exemple. Et là, sur les salaires des apprentis, on était vraiment, parce que c'est un problème général, salarial, de niveau de vie, etc., ce n'est qu'un exemple, on était sur un problème d'intérêt général. La question essentielle étant l'opacité et la transparence.
Donc, je crois que c'est une question pour Daniel de Vavrin et peut-être pour Michel Muller, hein, je veux dire. Et puis les autres peuvent répondre aussi.
Soit les apprentis, que ce soit les modifications des lois sur la loi sur les 35 heures ou des choses comme ça, ne sont pas des discussions qui se font à ciel ouvert. Enfin, je veux dire que ce sont des discussions techniques sur des rapports. Donc, opacité, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est manifestement des débats discrets et réservés. Bon. Ça ne reste pas réservé indéfiniment, mais quand on arrive au bout, c'est rendu public. Il n'y a pas une obligation d'opacité. Je pense simplement que c'est dans la nature de ce genre de débat.
Vous ne mettrez pas tout sur la table immédiatement. Je ne sais pas comment vous... je ne sais pas si je vous convainc, mais...
Monsieur Muller.
Oui, ça n'étonnera personne. Je ne partage pas du tout l'argumentation de Monsieur Devrin, parce que je pense que nous, justement, nous sommes en difficulté à cause de cette opacité. C'est-à-dire qu'il y a l'impression... Et je ne veux pas ici faire un débat entre l'UMM et la CGT, mais je nous mets tous dans cette situation. Ne serait-ce que donner l'impression que des choses puissent se décider sans que les salariés aient aujourd'hui leur mot à dire devient intolérable. C'est quelque chose de nouveau peut-être. Mais c'est vrai, vous le voyez sur tous les forums, je citais tout à l'heure les forums, c'est entre autres aussi parce que c'est là que ça apparaît. Cette volonté, parfois de manière maladroite, parfois même stupide, je dois bien le reconnaître, mais comme ça, c'est-à-dire je veux dire mon mot et je veux peser. Je veux que ça serve à quelque chose. Si nous, dans les rapports sociaux, nous n'intégrons pas cela en tant que syndicat, par exemple, vis-à-vis de nos mandants, vis-à-vis des salariés, par exemple, faire acter, avant de signer, un accord par des salariés, ce qui semble... relativement logique, mais qui n'a jamais été fait. Si effectivement on pense que l'on peut régler entre deux ministères ou deux structures patronales tel ou tel problème fondamental pour l'ensemble de la société, on va vers un désintérêt de la part du monde du travail pour leurs organisations représentatives. Et je vois là un danger réel, y compris pour la démocratie. Et pour terminer là-dessus, quand on parle logement, je pense qu'il est ce qu'ont fait toutes les associations pour le logement, c'est fondamental, c'est très important, ça a été révélateur, ça a fait bouger les choses. Mais si, à côté de ça, on ne se pose pas la question pourquoi des salariés qui ont du travail aujourd'hui sont sans logement, que le salaire qu'ils gagnent parce qu'ils sont dans la précarité, parce qu'ils n'ont pas, ils ont un contrat à durée déterminée ou parce qu'ils ne travaillent que 20 heures par semaine et qu'ils ne peuvent pas payer... s'ils ne sont pas logés, c'est qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Si on ne mène pas conjointement une action sur la question du logement social, sur la question des salaires, ou sur le développement durable quand on n'intègre pas la dimension sociale du développement durable, allez expliquer aujourd'hui à un papetier que le travail qu'il fait, il est négatif pour le développement durable. Il est le premier à en souffrir s'il travaille dans des conditions difficiles. Mais si vous ne lui donnez pas une perspective, et c'est en cela que Mme Brunel a évidemment raison, si on en reste uniquement une sorte d'incantation sur ces questions-là et que ça devient des problèmes de tel ou tel groupuscule, même important, tel ou tel corps social, eh bien c'est là où je crains que l'effet serait plutôt un effet d'atomisation de la société plutôt qu'une vision convergente des problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Madame Brunel, sur commentaire.
Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Michel Muller à propos du papetier en parlant des agriculteurs. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une sorte de mise en accusation permanente des agriculteurs comme s'ils étaient des pollueurs, comme s'ils n'avaient qu'un souci finalement nous empoisonner, alors qu'en réalité, les agriculteurs souffrent énormément de cette image négative qui est donnée d'eux. D'une part parce que cela fait 20 ans qu'ils font des efforts pour essayer de se concilier des contraintes environnementales de plus en plus lourdes, ensuite parce qu'ils sont les premiers à aimer les produits qu'ils fournissent, à souhaiter les améliorer, à ne pas eux-mêmes subir les conséquences négatives d'un recours excessif à la chimie qu'on leur a demandé de faire il y a 20 ans ou il y a 30 ans parce qu'il fallait nourrir la France, il fallait nourrir le monde. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte d'incompréhension entre toute une communauté qui se sent mal aimée, alors qu'en réalité, elle a un rôle fondamental pour la nation, mais elle a l'impression que le pacte est rompu. Est-ce qu'on va dans le bon sens quand on publie dans Le Monde des articles qui accusent les agriculteurs de polluer l'eau, de polluer les terres, etc., sans se soucier de tout ce qu'ils essaient de mettre en œuvre? Là, voilà, là, on a vraiment... l'exemple d'une mauvaise action de lobbying ou de militantisme qui va à l'encontre des intérêts de la nation globalement.
Une dernière question. Oui, Daniel Devavrin, pardon.
Alors, je voudrais juste rebondir sur une chose. Je ne pense pas avoir dit que j'étais partisan, que ce soit.
Attends, le micro, Daniel. Ça va, vas-y.
Je n'ai pas dit que je pensais que les discussions soient totales.
Voilà. Voilà. Je n'ai pas dit que je pensais que toute discussion devait être opaque, tenue entre deux ministères et deux fédérations patronales, etc. Bon, maintenant, si on veut rêver à ce qui est une démocratie totale, ce qui n'était pas d'ailleurs le symbole de la CGT il y a un certain nombre d'années, peut-être qu'elle est en train de changer et on verra ça.
Ce n'est pas le sujet du débat. Hein.
Bon, enfin. Nulle part au monde ça marche comme ça. Il faut bien qu'il y ait des décisions. Nulle part au monde ça marche comme ça. Alors si la France veut encore une fois être à l'avant-garde, apporter sa pierre au progrès de l'humanité, nous sommes d'accord, mais nous serons rattrapés par les problèmes économiques.
Hein. Didier Sicard, ici. Attendez, on va vous donner le... Et je vous serai la dernière question. Je suis toujours angoissé par la dernière question, donc cette fois-ci, non. Merci.
Oui, je voudrais poser la question à Sylvie Brunel, qui a eu le courage de démissionner d'une action de lobbying. Et je voulais que, justement, est-ce que quelquefois un lobbying peut déraper ? Est-ce que le courage, ce n'est pas quelquefois d'arrêter un lobbying ?
Sylvie.
Alors, qui tue. Didier Sicard fait allusion à ma démission de la présidence d'Action contre la faim en 2002 parce que j'ai eu le sentiment, après 17 ans dans l'humanitaire, que les ONG devenaient un gros business qui finissait par tourner, certaines ONG, par tourner au service de leur propre perpétuation, de la captation de budget, et que le choix de leurs actions était un choix qui était mené non pas en fonction des intérêts des victimes sur le terrain, mais des intérêts de l'institution en tant que telle. Et quand je suis partie d'Action contre la faim, c'était quand même mon monde. J'avais passé 17 ans et ça a été très, très dur, très violent, parce que j'ai eu évidemment une sorte de haine corporatiste de l'ensemble des ONG, partant du principe qu'il ne fallait pas dire du mal de l'une d'entre elles parce que la totalité des ONG subissait l'opprobre. Et elles n'avaient pas tort, probablement. Et j'ai été vraiment dans le rôle de ce qu'on appelle les whistleblowers, c'est-à-dire ces tireurs de sonnettes qui sont sacrifiés sur l'autel de la communauté qui m'ont dit « Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que les gens ne vont plus donner ?» Et il ne fallait pas parler parce que les gens n'allaient plus donner. Et finalement, je pense que cette action elle a été salutaire parce qu'après une réaction de colère et d'agressivité, les ONG ont fait leur autocritique et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 8 ans après, elles sont beaucoup plus transparentes, elles se posent beaucoup plus de questions, elles évaluent beaucoup plus leur programme qu'elles ne le faisaient quand elles étaient dans cette espèce de toute puissance liée au budget public. Tout n'est pas parfait, mais elles acceptent beaucoup plus la critique. Alors moi, je me suis sentie orpheline pendant très longtemps. Et puis finalement, je me rends compte que cette maturité qu'elles ont acquise ont fait qu'aujourd'hui, on est de nouveau capable de travailler ensemble sur des bases où elles savent qu'il faut se méfier de moi, mais que justement, pour elles, c'est une sorte de gage que si je suis à leur côté, c'est que je crois en elles. Et je travaille notamment, pour n'en citer qu'une, mais pour en citer beaucoup, avec Médecins Sans Frontières aujourd'hui.
Bien, bah écoutez, on arrête là-dessus et je vous remercie vraiment tous. Je remercie tous les participants à cette table ronde et puis je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour la suite sur les médias et l'opinion publique avec Luc Ferry.